Ce matin, j'ai choisi de ne pas prêcher depuis l'estrade, je descends un peu parce que vu que vous vous mettez toujours à l'arrière, je dis j'aimerais raccourcir les distances. Mais aussi parce que le texte de ce matin, je pense que a le but de nous remettre tous en question. Le thème que nous sommes en train de partager depuis quelques semaines, c'est une vie centrée sur Christ. Et ce matin, la suite, c'est dans mes faiblesses. Une vie centrée sur Christ dans mes faiblesses. Ô combien est important pour nous de comprendre le sens de ces mots. Et l'apôtre Paul fait usage d'un langage qui pourrait paraître insensé. Surtout de nos temps, notre époque, ce qui est demandé, c'est de faire preuve d'une grande assurance, frôlant presque l'insolence, n'est-ce pas ? Afin de pouvoir être pris au sérieux et considéré un gagnant. L'apôtre Paul dira ceci en 2 Corinthiens, chapitre 12, versets 9 à 10. Il m'a dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses, pour Christ. En effet, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Amen. Ce texte pourrait nous amener, frères et sœurs, parfois en erreur, dans le sens que quand nous parlons de faiblesse, nous avons une vision de la faiblesse. Mais ce matin, j'aimerais qu'on puisse examiner ce mot et le mettre dans le bon sens pour chacun d'entre nous. Comment sommes-nous appelés à comprendre et à vivre cette parole de l'apôtre Paul ? Elle est dans la parole de Dieu, on est d'accord ? Paul dira « Je me plais, je me glorifie de mes faiblesses ». Quel discours ! Quel langage ! On pourrait se dire, peut-être ils se sont trompés quand ils ont traduit la parole de Dieu. Mais non, il n'y a aucune erreur. Les mots, ils sont justes, ils sont bien choisis. Alors, qu'en est-il du chrétien ? Est-ce que nous devons être ce chrétien qui bombe le torse devant Dieu et les hommes ? On vient à l'église, tout va bien. Je suis un bon chrétien. Comment tu vas, frère ? Bien. Il n'y a pas d'autre manière d'aller. Certains vivent comme ça. Ou est-ce que nous sommes appelés à confesser au Seigneur nos faiblesses ? À ce titre, il me semble important de faire un point sur ce terme, faiblesse. En effet, existe la faiblesse de la chair. Matthieu, chapitre 26, verset 41, dira ceci, « Veillez et priez afin de ne pas entrer en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Est-ce que l'apôtre Paul, c'est de cette faiblesse qu'il parle ? Est-ce qu'il nous encourage à rester dans nos péchés ? Est-ce qu'en disant, Seigneur, je suis faible, je pêche, ce n'est pas grave, parce que, Seigneur, tu me dis que je dois me plaire dans mes faiblesses ? Loin de là. D'ailleurs, je vous rappelle ce que dit Jacques au chapitre 1, versets 12 à 15. Il est question pour nous de ne pas nous tromper de combat ou d'adversaire. Heureux l'homme qui endure la tentation, car après avoir été mis à l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « c'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut pas être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté parce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, parvenu à son terme, engendre la mort. Il y a la faiblesse qui est celle qui est au fond de notre cœur, cette faiblesse malsaine, c'est nos désirs malsains. Ça, c'est quelque chose devant lequel Dieu nous demande de résister, de combattre, de prendre position. D'ailleurs, il le dit, faites attention parce que Dieu ne tente personne. Ça serait trop facile pour nous de dire quand on vit une tentation, et c'est Dieu qui est en train de me tenter. C'est une erreur C'est une erreur qui ne peut pas être prise avec simplicité. C'est une grave erreur. Dieu ne tente personne. Amen. Mais dans ce temps de tentation, nous sommes appelés finalement à voir ce qui encore, dans notre cœur au plus profond, arrive à nous amorcer, nous amener finalement à tomber. On connaît ceux qui sont nos faiblesses, non ? Et c'est là que Dieu voudrait que nous soyons capables de dire, Seigneur, j'ai besoin de toi, Seigneur. Viens me fortifier. Je ne veux pas que ce qui est au profond de mon cœur continue à grandir. On a au fond de notre cœur, au fond de notre vie, parfois des mauvaises herbes qui sont restées et qu'on n'a jamais dit au Seigneur, enlève-les. On a continué de les arroser. Ces péchés que nous cachons et que nous pensons faire partie de notre vie et que Dieu peut bien comprendre quand même. Hein ? Seigneur, tu peux bien comprendre. Je ne suis pas parfait, je le sais. Je suis presque parfait. Mais quand j'arrive à l'église, je suis parfait. Que Dieu nous garde de tomber dans ce mensonge parce qu'on se ment à soi-même. Dieu sait très bien où on en est. Et la parole de Dieu nous dit qu'il est question pour nous, quand nous sommes tentés, en réalité de prendre le dessus sur les convoitises qui sont au fond de nous-mêmes, qui nous séduisent, pour que nous n'arrivions pas finalement à la mort. N'est-ce pas? Pour contenir les désirs malsains, Hébreux chapitre 4, versets 14 à 16, nous encourage, frères et sœurs. Parce que je crois que ce matin, nous pouvons tous dire, Seigneur, j'ai encore des choses dont j'ai besoin de me débarrasser. C'est vrai ou pas? Qui a des luttes? On a besoin. Parfois, frères et sœurs, c'est juste même nos pensées. Je ne suis pas forcément en train de parler, de dire « Oh là là, quelle bande de pécheurs !» Non. Parfois, frères et sœurs, déjà, on est tous des pécheurs. D'accord ? Comme ça, ça nous met tous à l'aise. Mais néanmoins, nous sommes tous appelés à combattre ce qui ne va pas dans notre vie. Et c'est là que nous avons besoin finalement, parce que je crois qu'on a tous tenté de toutes les manières de nous libérer de ce qui ne va pas dans notre vie. Et on a expérimenté ce moment terrible où, Seigneur, je veux te louer, je veux t'honorer, je veux t'adorer. Et après on tombe et on est mal à l'aise, on a du mal à revenir au Seigneur. Seigneur, tu m'as pardonné une fois et encore une fois, je suis retombé, je suis humilié, je suis écrasé par ma faute. Et le Seigneur nous fait sentir son pardon et alléluia à nouveau et après à nous. Et c'est les montagnes russes. Parce que nous avons tenté par nos propres moyens de nous libérer des convoitises qui sont au profond de notre cœur. Hébreux 4, versets 14 à 16, il nous dit « Puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, tenons fermement la confession de notre foi. Car nous n'avons pas un souverain sacrificateur incapable de compatir à nos faiblesses, mais il a été tenté comme nous, à tous égards, sans commettre de péché. Donc, voici la solution. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce en vue d'un secours opportun. » Mon frère, ma sœur, ce matin, je voudrais te dire que venir à Christ peut t'assurer un secours opportun. C'est exactement ce dont nous avons tous besoin, un secours opportun. Mais il est question pour nous de nous approcher avec assurance du trône de la grâce. Tu as certainement tenté par tes moyens, mais je voudrais te dire ce matin, utilise la méthode de Jésus-Christ. Lui seul, il peut nous soigner et nous délivrer de ce qui est au plus profond de notre cœur. Alors quelqu'un pourrait dire, oui, mais avec tout ce que j'ai vécu, avec la souffrance que j'ai dû endurer, le Seigneur a un recours, ça s'appelle le pardon. Et il déracine la colère, la haine, l'amertume qui est au fond de ton cœur et il plante la paix. C'est quoi l'arbre de la paix? Dites-moi, qu'est-ce que la colombe a ramené? Magnifique, non? Que le Seigneur puisse planter dans notre cœur la paix. Mais j'ai besoin de dire, Seigneur, enlève ce qui ne va pas dans ma vie. Le Seigneur n'est pas en train de dire ce que vous avez souffert, c'est rien. Hein? Non, non. D'ailleurs, je vous rappelle qu'il a pris nos souffrances à la croix. Il sait ce que c'est. Autrement, ça aurait été, excusez-moi, une promenade à la croix. Mais c'est loin d'être ça. Il sait exactement quel est le fardeau qu'il a pris. Et il a voulu régler cela pour nous. Je vous rappelle aussi que l'orgueil est aussi une faiblesse. Et Dieu agit pour nous aider. Amen. En 2 Corinthiens chapitre 12, versets 7 à 9, il est écrit « Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, c'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter pour que je ne sois pas enflé d'orgueil. Trois fois, j'ai supplié le Seigneur de l'éloigner de moi et il m'a dit « Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses afin que la puissance de Christ repose sur moi. Certains points de faiblesse de notre vie sont un garde-fou. De quoi il parle là l'apôtre Paul? Quand un général qui avait vaincu des grandes batailles revenait auprès de l'empereur et qu'il était sur le char, hein, victorieux parce qu'il était accueilli, par la foule, il y avait les cris, l'exaltation de son nom. Hein, il était, oh là là, quel triomphe! Il y avait quelqu'un sur le char à côté de lui qui lui rappelait dans son oreille, sache que tu n'es qu'un homme. Sache que tu n'es qu'un homme. Tu as eu la possibilité de gagner, mais tu ne restes qu'un homme. Ne te prends pas pour ce que tu n'es pas. Et l'apôtre Paul est en train de nous dire que lui aussi, pour qu'il ne soit pas enflé d'orgueil. L'apôtre Paul aurait pu être orgueilleux? C'est ça qu'il est en train de nous dire? L'apôtre Paul, un apôtre parfait, qui voudrait être comme l'apôtre Paul? Mais vous voyez, il avait aussi ses combats. Comme vous et moi. On pourrait se dire, mais l'apôtre Paul, parmi les apôtres, number one. Non? Mais le number one, ça reste Jésus-Christ. Et il y a une seule place. Elle est occupée. C'est la sienne. L'apôtre Paul ose nous dire que lui aussi, il courait des risques, comme vous et moi, et que Dieu savait comment le garder à un certain moment tout petit. Malgré les diverses prières, voire même jeûnes et prières, ou imposition des mains, cela demeure. Et on aimerait que Dieu nous libère de tout. Et si le problème qui est en toi, Dieu le laisse pour te garder humble. Un jour, une sœur, elle m'a dit, « Pasteur, je ne peux pas témoigner aux autres. Je suis malade, je me promène avec une canne. Tant que Jésus ne m'a pas guéri complètement, je ne peux pas témoigner. » Je dis, ma sœur, tu n'as pas compris. C'est justement parce que tu es malade, que tu as une canne, que tu as des problèmes, que tu peux confesser que Christ est celui qui te soutient et c'est lui qui te conduit jour après jour. Parfois, on a des mauvaises interprétations des choses. Et Dieu permet certaines situations pour que nous puissions changer. Vous savez, au début de sa vie, l'apôtre Paul ne s'appelait pas Paul. Il s'appelait Saul. Vous savez ce que ça veut dire, Saul? Désirer. Demander. Quel prénom. Et quand vous lisez dans la lettre des Actes, des apôtres, vous voyez qu'il nous parle de Saul, et à un moment, il nous dit Saul, appelé aussi Paul. Qu'est-ce que ça veut dire, Paul? Petit, faible. Entre désirer et demander à Dieu, et petit et faible, ça met un coup derrière les oreilles, non ? Et s'entendre appeler tout le temps Paul, petit, faible, c'est une réalité. Il avait des soucis de santé, l'apôtre Paul. D'ailleurs, il y avait toujours avec lui un certain Luc, le médecin, qui prenait soin de sa santé. Il était dépendant des soins de ce frère, de cet homme. Dieu parfois permet que nous soyons les uns pour les autres. Un soutien, une force, là où justement nous sommes faibles. J'imagine que Luc a dû, à bien des fois, ausculter Paul. Que Paul a dû retirer ses vêtements pour que le médecin puisse vérifier comment il allait. Il a dû à quelque part, excusez-moi, mettre à nu. Et Dieu, il nous demande, frères et sœurs, aussi d'être capables vis-à-vis de Dieu de mettre à nu notre âme. Pour dire, Seigneur, viens, viens guérir mon cœur. Alors on a parlé de la faiblesse dans le péché, et là on a bien compris, on a tous bien compris que Christ veut que nous soyons vainqueurs. Amen. Et c'est en Jésus-Christ que nous avons le recours nécessaire. Mais il parle aussi d'autres faiblesses dont l'apôtre Paul, il nous dit qu'il se plaît, qu'il se glorifie volontiers de ses faiblesses. Et là, ça doit nous donner à réfléchir. Le mot faiblesse veut dire manque de force, être voire infirme, impuissant. Il parle dans la faiblesse d'une une fragilité du corps, non ? Fragilité physique. Mais j'aimerais nous dire, frères et sœurs, que ce n'est pas forcément une entrave à l'avancement de l'Évangile. 1 Corinthiens chapitre 9, versets 22 et 23, il nous écrit ceci. J'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Je fais tout à cause de l'Évangile, afin d'y avoir part. L'ennemi aimerait se servir de nos faiblesses pour nous empêcher de partager, pour nous empêcher de témoigner. Voudrait se servir de nos faiblesses pour nous dire, tu vois, t'es pas en condition. Cette semaine, ne témoigne pas. Peut-être la semaine prochaine, ça ira mieux. Retente encore une fois, tu verras. Et vous savez, il y a des faiblesses, il y a des problèmes qui sont là et qui pourraient toujours nous empêcher, en tous les cas peuvent devenir une excuse pour nous. Une excuse pour ne pas témoigner. Une excuse pour ne rien faire pour aider les autres. Une excuse même pour venir à l'église. On peut en chercher des excuses, on est les champions des excuses. On a tous une excuse quelque part. Et c'était comme ça aussi du temps de Jésus. Vous vous rappelez quand il partage ce texte de cette invitation au repas. Excuse-moi, mais je viens d'acheter un terrain, il faut que j'aille le voir. Excuse-moi, mais je viens d'acheter des bœufs, il faut que j'aille les mettre au travail. Excuse-moi, mais je viens de me marier. Excuse-moi, mais ah, des excuses, on en a toujours. Et parfois, elles sont bonnes. Hein, on est tellement champions dans les excuses qu'une fois pour une autre, on ne sait plus quelle excuse nous avons utilisée. Mais le Seigneur connaît les vraies raisons, non ? Et l'apôtre Paul dira, je me suis fait faible avec les faibles. Ça veut dire que les épreuves et les difficultés que nous avons vécues peuvent être pour nous un moyen de comprendre ceux et celles à qui nous témoignons. C'est autrement de dire à quelqu'un, je sais par quoi tu passes, parce qu'autrement, on ne peut pas dire, je te comprends. Excusez-moi, si on ne l'a pas vécu, on ne peut pas le comprendre. Et la personne qui vit l'épreuve, la difficulté, elle n'a pas forcément envie d'en parler ou de se justifier devant quelqu'un qui a le sentiment d'être supérieur. Et si l'épreuve par laquelle tu passes, mon frère, ma sœur, est un moyen pour que tu puisses aller amener l'évangile de Jésus-Christ à quelqu'un. Un jour, un pasteur prié, un frère que je connais, « Seigneur, envoie-moi là où personne ne va. Seigneur, fais-moi aller où je n'irai pas par ma propre volonté. » Eh bien, Dieu l'a entendu. Du jour au lendemain, il s'est retrouvé en fauteuil roulant parce qu'une petite veine passait dans la colonne vertébrale. Et cette petite veine, il y a eu un problème, elle a éclaté, elle a créé un bouchon au niveau de la colonne vertébrale et il n'y avait plus de communication. Ses jambes ne fonctionnaient plus. Et ce frère, il dit, mais je ne comprends pas, je sers le Seigneur, pourquoi le Seigneur permet que je passe par là? Souviens-toi de ta prière, mon frère. On chante, brise-moi, façonne-moi. Souviens-toi quand tu chantes. Seigneur, je n'aspire qu'à une chose. Vous avez chanté tout à l'heure. La première version n'était pas comme ça. Celle-ci, elle est adoucie. Hein. La première disait qu'à m'immoler. N'oublions pas que Dieu entend nos prières. Et ce frère, les premiers temps, il était dans cette souffrance, dans l'incompréhension. Et un jour, Dieu lui rappelle sa prière. Et vous savez quoi? Il a commencé à témoigner là où il était. Il y avait des gens qui étaient accidentés de la rue. Des gens qui avaient été renversés, des gens qui avaient eux-mêmes, avec leur véhicule, renversé d'autres. Et ils étaient restés bloqués, ils ne pouvaient plus marcher. Certains avaient perdu des parties de leur corps, ils avaient perdu quelqu'un. Ils étaient au fond du gouffre. Et il dit, là, je suis allé vers une nouvelle église. Et il dit, Seigneur m'a envoyé comme apôtre pour défricher une nouvelle église. Vous connaissez ce texte où la parole de Dieu nous dit d'étirer les cordages, non? Eh bien, on ne sait pas dans quel terrain le Seigneur nous dit de tirer le cordage. Des fois, on rentre dans chez quelqu'un, on a le sentiment de l'extérieur, la maison, elle est toute belle, mais quand on est à l'intérieur, on voit qu'il y a des problèmes. Problème dans le couple, problème avec les enfants, problème de ceci, problème de cela. On se dit, oh là là, Seigneur, dans quel nid à guêpes je suis rentré. Mais c'est là que la grâce de Dieu veut se manifester. Alors Seigneur, donne-nous la force, n'est-ce pas? Donne-nous le courage, Seigneur. Nos fragilités, mais il y a aussi nos faiblesses de l'esprit, manque de force, de capacité pour comprendre et accomplir de grandes choses pour le Seigneur. Souvent on fait ce constat, on se dit, Seigneur, on voudrait voir plus de miracles. Moi, je le dis. Seigneur, je voudrais voir plus de miracles. Mais puisque tous les chrétiens vont bien, puisqu'on est tous au top, il n'y a pas besoin de miracles, non? Mon frère, ma sœur, si tu vas tellement bien, pourquoi Dieu te ferait un miracle? De quoi tu vas bien? À quel moment, finalement, j'arrive à comprendre ce que la parole de Dieu me dit? 1 Corinthiens chapitre 1, versets 27 à 31. « Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. » Dieu a choisi les choses, et quand il parle des choses, parle de vous et moi. « Du monde pour confondre les fortes. » Dieu a choisi les choses viles du monde. Et encore une fois, c'est à nous que ça s'adresse. Celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qu'ils sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Or, c'est par lui que vous êtes en Christ Jésus, qui, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse et aussi justice, sanctification et rédemption, afin, comme il est écrit, que celui qui se glorifie dans le Seigneur. Ça veut dire que plus j'accepte, moi, mes faiblesses, plus je dis, Seigneur, moi, je n'ai pas les capacités. Seigneur, je ne sais pas comment m'y prendre. Seigneur, je reconnais que je ne sais pas comment m'y prendre avec ce problème. Seigneur, dans la situation que je traverse au travail, je ne sais pas comment m'y prendre, Seigneur. J'ai besoin de ton aide, Seigneur. Et là, le Seigneur me dit, tu as besoin d'un miracle. Mais je vais faire un miracle pour toi. Amen. Mais si tu dis, Seigneur, moi au travail, heureusement que je suis là. La société, si elle tient debout, C'est parce que je suis là. Le Seigneur dit, tu n'as pas besoin de miracle, tu as besoin d'humilité. Alors, t'inquiète pas, je vais régler ton problème. Je vais te rappeler que tu n'es qu'un homme. Et peut-être voire même qu'un numéro dans la société. On te prend, on t'enlève et on en met quelqu'un d'autre. Tu pensais être, mais en réalité, vous savez, dans la parole de Dieu, dans l'Apocalypse, il y a un moment où il dit, tu te crois riche. Tu te crois riche, mais tu n'es que pauvre, misérable, aveugle et nu. Quand est-ce qu'on va reconnaître, frères et sœurs, le véritable état qui est celui de notre vie ? On ne doit pas baser la réussite, excusez-moi, spirituelle d'une église par la taille de ses bâtiments. On ne doit pas établir la valeur spirituelle d'une église par la quantité de personnes. On peut être très nombreux et il n'y a pas le réveil. Si vous allez au stade, il y a plein de monde. Est-ce que pourtant il y a un réveil ? Je ne crois pas. Non ? La qualité spirituelle, elle se positionne, elle peut se mesurer autrement. C'est dans la manière où Dieu se manifeste et encore interpelle des cœurs, change des vies, transforme l'existence, pas seulement de ceux qui viennent pour la première fois, mais il continue à œuvrer dans le cœur de ceux qui ont déjà dit oui, et peut-être depuis des années. Parce que, frères et sœurs, si nous sommes encore ici-bas, c'est qu'il y a du boulot. Si on était déjà arrivé au top, ben on serait déjà parti. Pour éviter qu'on ait la grosse tête. Non ? Mieux les prendre tout de suite. Encore une fois, Dieu nous fait grâce. Et si nous sommes là, et moi en premier, c'est pour ça que je suis descendu, parce qu'on est tous au même niveau, ça va comme ça ? On se dit, Seigneur, il y a encore du boulot dans ma vie. Et je veux encore ce matin reconnaître que c'est dans mes faiblesses que toi, tu vas manifester ta force. Et je ne pourrais pas dire que c'est moi, Seigneur, c'est toi, rien que toi. Tu es le garant de ta parole et tu agis avec puissance. Amen. Il est question pour nous aussi d'avoir cette grâce de Dieu pour supporter les épreuves et les difficultés. Romains chapitre 8, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit vient au secours de notre faiblesse. Car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est l'intention de l'Esprit. C'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Amen. Si tu te dis, je ne me sens pas d'aller à la réunion de prière parce que je ne sais pas quoi demander, moi je vais te dire, viens, tu vas voir comment le Saint-Esprit va agir pour que ta prière s'élève vers Dieu et c'est exactement ce que Dieu veut entendre de toi. Il n'y a pas d'amen. C'est si compliqué ce sujet. Moi je peux vous dire, ça m'a travaillé. Ça m'a travaillé ce sujet parce que je me suis dit, Seigneur, alors comment faire ? Comment faire ? L'apôtre Paul dira en 2 Corinthiens 12, versets 9 et 10, « Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans mes faiblesses. » Je dis, Seigneur, quelle conception des choses ! Quelle folie ! Mais c'est de cette folie qu'on a besoin, frères et sœurs, n'est-ce pas ? Ésaïe 53 me rappelle quelque chose, c'est que Jésus lui-même, il va être considéré faible. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé ? Qui a reconnu le bras de l'Éternel ? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, dira la version Louis II, comme une faible plante. Est-ce qu'on peut parler de Jésus comme quelqu'un de faible ? Est-ce qu'à Gethsémané, Jésus était avec un cœur conquérant ? Ou est-ce que Jésus dirait, Père, si possible, éloigne de moi cette coupe ? Est-ce que Jésus était oppressé à Gethsémané? Pourquoi, frères et sœurs? Parce qu'il était être humain, entièrement humain. Certes, il est fils de Dieu, mais aussi pleinement homme. C'est pour ça qu'il peut comprendre nos difficultés. Et Jésus ne s'est pas caché de ses disciples en disant « Allez là-bas » et il est allé se cacher derrière un arbre pour pleurer ou pour crier à Dieu en disant « Comme ça, il ne me voit pas. » Mais il dit à ses amis « Venez, s'il vous plaît. Venez veiller avec moi. Vous ne pouvez veiller même pas une heure. Parfois, nous, on s'endort et on ne voit pas les autres souffrir. On est endormi spirituellement parce que chez nous, tout va bien. Voire même, on se dit « C'est pas grave. » T'as un problème, ben Dieu te bénira. Je prierai pour toi. Et après, moi, je me suis dit combien de fois on a pu dire cela et on n'a jamais prié pour le sujet. Alors, quand vous dites à quelqu'un, je vais prier pour toi, s'il vous plaît, faites une chose, arrêtez-vous et priez tout de suite. Au moins, notez-le dans votre agenda, ayez avec vous un cahier de prière. Et à chaque fois que Dieu répond, mettez dessus. La date de début, la date de fin, et ça sera encore des sujets de remerciement au Seigneur. Seigneur, sur ce point, on était faible, mais toi, tu as été fort. Sur ce point, Seigneur, on ne savait pas comment faire, mais toi, tu nous as donné la solution. Quelle grâce pour nous, n'est-ce pas? Sommes-nous prêts à nous glorifier de nos faiblesses afin que le Seigneur agisse en nous? Sommes-nous prêts à nous plaire dans les faiblesses, les outrages, dans les privations, dans les persécutions, dans les angoisses pour Christ? Psaume 147, verset 5 nous dira « Notre Seigneur est grand, d'une force immense, son intelligence n'a point de limite. » Alors, comment pouvons-nous résoudre le problème? Si nous désirons vivre des choses glorieuses, comment devons-nous agir, frères et sœurs? Vous voulez toujours des miracles? Vous voulez toujours voir la gloire de Dieu? Amen. Il est question pour nous de saisir que nos forces et nos capacités ne sont pour rien. Il est question pour nous de franchir le pas de la foi pour demander et attendre que la puissance de Dieu vienne sur nous. Il dira au verset 9, « Afin que la puissance de Christ repose sur moi. » Alors j'ai recherché le mot puissance dans ce texte. De quelle puissance il est question? C'est du mot dunamis, puissance, miracle, capacité, force, pouvoir, sens, moyen, capacité. Il est question pour nous d'une force, d'avoir les talents de Dieu. Il est question pour nous d'être des instruments entre mains de Dieu pour accomplir des miracles. On veut voir la puissance de Dieu se manifester en nous. Soyons cohérents avec nous-mêmes. Si je veux des miracles, si je veux voir la gloire de Dieu, j'ai besoin de Jésus-Christ. Et il ne peut pas juste être un hôte silencieux dans un coin, ou voire même comme une boîte à pharmacie que j'ouvre quand j'ai un souci et je referme tout de suite après. Boîte à pharmacie, vous avez une croix dessinée dessus généralement, non? J'ouvre, je me sers, je referme. Et parfois, on fait la même chose avec Jésus-Christ. Et là, il est question pour nous, finalement, de comprendre que, afin que la puissance de Christ repose sur moi, je dois être capable de dire, Seigneur, ok, j'accepte mes faiblesses, j'accepte mes limites. Seigneur, tu me donnes un frère, tu me donnes une sœur, tu me donnes autre chose. C'est parce que moi, je ne serai pas capable tout seul. On a besoin les uns des autres. Plus j'avance dans le message, moins il y a de « Amen ». Peut-être parce qu'on touche un point. Peut-être parce qu'on touche là vraiment où ça fait mal. Actes chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, et le mot puissance, c'est encore une fois le même, dunamis, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que tu veux être un témoin de Jésus-Christ efficace? Est-ce que tu veux être rempli de la puissance de Dieu? Eh bien, tu as besoin de la dynamite. C'est un peu comme une dynamite, non? Ça évoque un peu. Tu as besoin de cette puissance de Dieu parce que si tu vas témoigner avec tes propres forces, ça ne va pas marcher. On va faire des boulettes. On a pu parfois présenter l'évangile comme un ensemble de règles. Tu fais pas. Tu dis pas. Tu avances ou tu t'arrêtes. On a été pire que des gens avec une tronçonneuse. On a dessiné un ciel et un Dieu dur. Parce qu'on finalement, on ne l'avait pas connu. Parce que finalement, on n'avait pas accepté, ou en tous les cas, on n'a pas laissé toute la place au Saint-Esprit pour nous manifester, nous exprimer la pensée de Christ, même nous révéler Jésus-Christ. Et quand on parle d'une révélation que Christ a faite dans notre cœur, regardez, il y a une certaine douceur dans nos mots. Parce qu'on sait que ça ne vient pas de nous, n'est-ce pas? Alors on a besoin de cette puissance de Dieu. La puissance dunamis dont il est question est le Saint-Esprit. Et il veut que la puissance réside en nous. 1 Corinthiens chapitre 6, versets 19 à 20, il dira « Ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que vous avez reçu de Dieu et vous n'êtes pas à vous-même car vous avez été racheté à grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Mon frère, ma sœur, tu es appelé à être le temple du Saint-Esprit. Tu as besoin de cette puissance de Dieu qui va prendre le dessus sur tes faiblesses. Seigneur, je ne sais pas quoi dire. Ouvrez votre bouche et je la remplirai, dit la parole de Dieu. Seigneur, je ne sais pas comment faire. Va, il lui dira Dieu. Lève ton bâton et j'ouvrirai la mer rouge. Qui veut voir des miracles comme ça? Amen. Mais il a fallu que Moïse il dit, Seigneur, je suis là devant un obstacle, je ne sais pas comment faire. Et tu vois que le peuple, il n'est pas commode. Hein. Là, il risque de faire deux Moïse. Il veut me couper, Seigneur. Il dit, sois tranquille, dans la paix, lève le bâton. Amen. Et regardez cette image. La première fois, il n'y a que Moïse. Mais quand il rentre dans la terre promise, Dieu avait structuré les choses pour que finalement les sacrificateurs arrivent avec l'arche et au moment où ils ont mis le pied dans l'eau, elle s'est ouverte et ils sont passés pieds secs. C'était plus un homme. Il y avait une forme de multiplication et Dieu voudrait que nous soyons capables de la multiplication. Qu'il y ait une telle action de la foi dans notre vie, frères et sœurs, pour que nous puissions ensemble vivre les miracles de Dieu. Amen. Dernière référence. L'apôtre Paul avait saisi l'importance capitale de ces choses. Et pour cela, il va dire quelque chose de décoiffant. Philippiens chapitre 3, versets 7 à 11. Mais ce qui était pour moi un gain, je l'ai considéré comme une perte à cause du Christ. Et même, je considère tout comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur. À cause de lui, j'ai accepté de tout perdre et j'ai considéré tout comme des ordures afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Non pas avec une justice qui serait la mienne et qui viendrait de la loi, mais avec la justice qui est obtenue par la foi en Christ. Une justice provenant de Dieu et fondée sur la foi. Mon but est de le connaître, lui, ainsi que la puissance. Et encore une fois, c'est dunamis. J'ai été rechercher les termes exacts pour ne pas me tromper. Ainsi que la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, si possible, à la résurrection d'entre les morts. Il y a un moment, frères et sœurs, il faut être clair. Est-ce que nous avons le même désir? Sommes-nous prêts, nous aussi, au renoncement? Est-ce que nous désirons plus que toute autre chose que la puissance dunamis de Dieu soit en nous? Amen. Est-ce qu'on est prêt à se dépouiller parce que le dépouillement précède le revêtement? Dieu ne va pas mettre sa puissance, il ne va pas nous revêtir de sa puissance si nous, nous voulons garder les anciens habits de la chair. Mais le Seigneur nous dit, dépouillez-vous et je vous revêtirai. On va fermer nos yeux. Seigneur, ta parole, bien souvent, elle nous met en difficulté. La difficulté du conflit entre la chair et l'esprit. Mais Seigneur, toi, tu as prévu tout d'avance et dans ta miséricorde, tu nous as donné quelqu'un dans la personne de Jésus-Christ, capable de se servir de nos faiblesses, de nos fragilités, premièrement parce qu'il les a acceptées dans notre vie. Il ne nous a pas choisis parce qu'on était les meilleurs, mais parce qu'on était les plus faibles. Tu nous as choisis par amour. Et tu as choisi, Seigneur, de venir combler notre vie par ta puissance. Et oui, Seigneur, plus nous acceptons que nous sommes faibles, plus ta puissance va se manifester dans notre vie. Seigneur, nous te prions que ta puissance se manifeste dans tous les secteurs de notre vie. Seigneur, qu'encore ce matin, Seigneur, ceux qui ont besoin d'être secourus, Seigneur, dans les difficultés qu'ils peuvent vivre, puissent faire recours à cette puissance du Saint-Esprit. Encore ce matin, ceux qui souhaitent te servir, Seigneur, puissent encore une fois te dire, Seigneur, viens, remplis-moi de cette puissance, Seigneur. Viens encore accorder à ton peuple, à ton Église, Seigneur, la puissance du Saint-Esprit, Seigneur. Non pas, Seigneur, pour que nous puissions nous en vanter, mais non, Seigneur, mais pour te servir. Seigneur, que nous puissions, avec, Seigneur, sagesse, agir. En étant conscient, Seigneur, que ce n'est que par grâce. En étant conscient, Seigneur, que sans toi, nous ne pouvons rien faire. En étant conscient, Seigneur, qu'il n'y a que ta puissance qui nous permettra finalement, Seigneur, de voir les choses changer, de voir les cœurs être transformés. Il n'y a que la puissance du Saint-Esprit qui peut transformer non seulement la vie des autres, mais aussi la nôtre. Pour ceux qui sont dans les combats, Seigneur, face au péché, nous te prions encore ce matin, viens au secours. Accorde à chacun, Seigneur, le secours nécessaire, opportun, dit ta parole, pour que finalement nous soyons délivrés de ces faiblesses-là et que nous puissions nous concentrer sur toi, notre force. Que l'ennemi n'ait plus de levier dans notre vie pour nous briser, pour nous humilier, pour nous casser, mais que nous puissions, Seigneur, aller de progrès en progrès, que nous puissions avancer par la puissance du Saint-Esprit, que nous puissions manifester, Seigneur, au monde entier, Seigneur, révéler au monde entier ta grâce. Le monde attend la révélation des fils de Dieu. Seigneur, nous voulons être ce peuple que tu as choisi, ce peuple que tu as équipé, ce peuple que tu as envoyé, Seigneur. Merci encore pour, Seigneur, ta grâce, ta miséricorde. Seigneur, notre vie se veut centrée sur toi, non pas seulement pour un jour, mais tous les jours de notre vie et pour l'éternité. Amen.